Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous avons le grand plaisir de parler aujourd'hui de nouveau sur les sacrements avec Monsieur l'abbé Jacques Potier, qui est avec nous dans notre studio à Chartres. Il est licencié en théologie de la Grégorienne à Rome, mais à ce titre-là, nous sommes très heureux qu'il va nous parler des sacrements. Nous avons, Monsieur l'abbé, déjà fait un petit tour sur d'autres sacrements, et peut-être aujourd'hui, en mettant l'accent sur la confirmation, vous voudriez, en introduction, peut-être reprendre un peu le sacrement du baptême. Et comme la cathédrale de Chartres montre beaucoup d'images de baptême, cela nous aide aussi à mieux comprendre les images que nous voyons dans nos églises.
Alors bonjour Madame Lagier, c'est une joie de partager sur ce thème. C'est au titre d'enfant de Dieu et de prêtre catholique que je parle. Et c'est vrai, on avait vu le baptême. Peut-être qu'on n'avait pas suffisamment souligné, ça me paraît quand même être le centre, me semble important de le redire, que c'est en lien avec le mystère pascal. C'est le Christ qui vraiment s'est offert pour nous sur la croix et ressuscité. Et en tant que tel, il est la source du baptême parce qu'il nous fait participer, il nous plonge dans ce mouvement de retour vers le Père, nous faisant enfants de Dieu. Alors, vous souhaitez qu'on parle de la confirmation. Ça va bien ensemble, de fait, parce que on peut dire que ça confirme le baptême, mais ça ne fait qu'un. Car s'il y a eu le mystère pascal, il y a eu la Pentecôte. On peut dire que l'Esprit-Saint, c'est le fruit du mystère pascal qui se manifeste à la Pentecôte. Et donc, l'Esprit-Saint nous permet d'intégrer, d'intérioriser donc ce qu'on a reçu au baptême. Alors, il y a un sacrement qui donne sens à cela, c'est la confirmation. Alors, il faut peut-être qu'on voit le rôle de l'Esprit-Saint dans notre vie chrétienne, mais plus précisément, donc, vous voulez qu'on parle peut-être du sacrement en tant que tel. Hein, et donc, peut-être, l'origine de ce sacrement vient du fait que c'est Jésus qui annonçait l'Esprit-Saint. Je viens de souligner le fruit du mystère pascal et le grand texte de la Pentecôte dans les actes, au début des actes des apôtres. Alors, vous faisiez allusion à la cathédrale de Chartres. Moi, j'ai été frappé qu'à la cathédrale de Chartres, bien sûr, l'Esprit-Saint est présent, mais au point de vue iconographique, c'est pas très présent.
On voit souvent les colombes qui expriment l'idée des dons de l'Esprit-Saint.
Oui.
Il y a le vitrail de l'arbre de Jessé où Jésus est entouré des sept colombes.
Voilà. Et il y a même une vierge avec les sept dons. Maintenant, j'y pense.
C'est un vitrail remarquable, effectivement, dans la nef.
La nef, on voit un peu moins, parce que c'est côté nord, donc un oculus assez large, un peu au milieu de la nef. Et quelquefois, je le montre aux gens, ils sont étonnés de voir cette belle représentation, car c'est important. Marie est remplie des dons de l'Esprit-Saint. Et bon, il y a aussi dans le pourtour du cœur le Cénacle, après les apparitions du
ça,
Christ.
C'est côté nord également, pas loin de Notre-Dame du Pilier.
Voilà, et donc je pense qu'avec la restauration, on y sera peut-être plus attentif.
Le vitrail des apôtres, dans l'axe, nous avons tout en haut la représentation des langues de feu qui descendent sur les apôtres.
Et on pourrait même parler aussi du Samaritain, du bon Samaritain, parce que de fait, le blessé va être soigné par l'huile. Et donc l'eau, le symbole, donc bien sûr l'huile surtout, de l'Esprit-Saint, ça c'est sûr. On est restauré par, les blessures sont restaurées par le fait que ce bon Samaritain, qui est le Christ lui-même, une prophétie du Christ lui-même, restaure l'humanité, oui.
Dans le vitrail du bon Samaritain, c'est surtout l'huile, la matière qui effectivement qui guérit les blessures du malade.
Peut-être même uniquement, peut-être.
Uniquement, exactement. D'accord. On ne voit pas la colombe, mais on comprend la matière. Oui, il faut peut-être parler de la matière de ces sacrements. Pour le baptême, c'est l'eau.
Alors, je pensais à l'eau, justement, parce que c'est tellement prégnant, surtout dans Saint Jean. Il faut renaître de l'eau et de l'Esprit-Saint, en chapitre 3, à l'entretien avec Nicodème. Il y a bien sûr, avec la Samaritaine, donc l'importance de l'eau. Je te donnerai l'eau vive, si tu savais le don de Dieu, et puis l'eau vive. Et puis, bien sûr, à la croix, jaillit le sang et l'eau. Alors, pour l'Esprit-Saint, il y a plusieurs symboles. Bon, la colombe, c'est très difficile. Hein, le souffle, bien que ça reste même le souffle, on souffle quelquefois, surtout dans l'ancien rite, on peut souffler sur l'enfant. Ephphatha, ouvre-toi. Donc, un appel à l'Esprit-Saint, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit-Saint », chapitre 20 de Saint Jean. Donc, le symbole du souffle est net, l'eau, mais l'huile, donc comme on le disait dans cette parabole du bon samaritain, et puis il faisait des onctions d'huile. On voit que, justement, pour les malades, l'importance de l'huile, Jésus dit que, aux apôtres de guérir les malades, et il faisait des onctions d'huile en Saint-Marc. Alors, l'Église qui est maître des sacrements au niveau du choix, du rite, enfin, il y a les racines bibliques, mais en même temps, elle explicite, eh bien, a choisi l'huile, l'onction de l'huile, pour montrer l'imprégnation, puisque c'est l'onction. On le dit dans le Veni Creator, hein, spiritualis onctio. Hein, tous ces petits formis monere, d'abord la strophe, hein, qui diceris paraclitus, c'est le paraclet. Hein. Altissimi donum di, fons lo, vivus, ignis feu, mais on ne peut pas représenter le feu comme dans une cérémonie, ignis caritas, et spiritualis unctio. Alors je crois que l'onction va montrer l'imprégnation de la grâce qui pénètre et donne un caractère, donc et qui reste. C'est pour ça que célébrer qu'une seule fois comme le baptême.
Alors, le baptême est idéalement donné à l'enfant tout de suite après la naissance. Aujourd'hui, on repousse parfois le baptême, mais on a donc des baptêmes de jeunes adultes ou des adultes tout court. À quel moment faut-il conférer le sacrement de la confirmation pour affermir sans doute ce nouveau baptisé, cette nouvelle plante dans le jardin de Dieu?
Oui, vous employez une belle expression, le jardin de Dieu, et pour la pastorale d'aujourd'hui, et comment faire fleurir cette grâce reçue. La pastorale a varié, hein, selon les époques. À une époque, on l'a donné assez tôt, et dans l'Église d'Orient, ils sont restés fidèles, là, tout de suite après le baptême, la confirmation. Et après, on a parler plus du témoignage en fonction des actes des apôtres. Donc, il faut être témoin. Donc, si on est témoin, il faut être quand même vers un âge de maturité. Donc, on disait soldat du Christ, témoin du Christ. Donc, avec cette argumentation, on avait tendance à plus porter ce sacrement tardivement. Mais on s'aperçoit que beaucoup ne reçoivent pas la confirmation. Or, normalement, lorsqu'on a le baptême, on doit recevoir les trois sacrements d'initiation, baptême, confirmation, eucharistie. On donne l'eucharistie à un enfant de 7-8 ans, et puis on ne lui donne pas la confirmation. S'il reçoit l'eucharistie, c'est qu'il peut avoir l'Esprit Saint. Donc, on revient actuellement plus à cette idée que baptême, confirmation doivent être assez liés, et bien selon des évêques, selon des pastorales différentes, les deux points de vue se défendent, mais maintenant on revient un peu plus à lier la confirmation à l'initiation chrétienne. Je crois que moi, c'est bien, l'Église orientale a été fidèle à cela, il faudrait que tous les baptisés soient confirmés. D'ailleurs, même pour le sacrement du mariage, on dit que normalement, les fiancés doivent être confirmés. Donc on voyait en réunion de pastorale comment on pouvait, pour les fiancés, leur proposer le sacrement de confirmation. Donc c'est une façon aussi de le proposer à tous. Et je crois que, de fait, il faut que de plus en plus, on soit très large et le proposer.
Après une petite pause musicale, on va peut-être parler de la forme dans laquelle va être donnée la confirmation. Après cette petite pause avec Jean-Sébastien Bach, nous sommes à nouveau avec Monsieur l'abbé Potier pour parler du sacrement de la confirmation. Nous avons abordé un peu la manière dont ce sacrement a été donné par le passé, qu'on l'a donné parfois tout de suite après le baptême, aujourd'hui un peu plus éloigné du baptême. Comment cela se passe alors? Est-ce que l'âge adulte ou l'âge d'enfant, c'est pareil?
Oui. Alors, dans notre conversation un petit peu à bâton rompu, là, comme on peut le faire, j'allais dire, avec toute personne qui cherche à comprendre le sacrement de la confirmation, moi, je noterai que c'est important aussi de le réaliser en Église. Actuellement, on marque cela par le fait que c'est l'évêque qui donne ce sacrement, l'évêque qui est quand même successeur des apôtres.
On dit que c'est le ministre du sacrement.
Voilà, le ministre officiel du sacrement. Il peut déléguer un prêtre occasionnellement quand il y a beaucoup de monde, mais il est dans la prolongation du ministère apostolique de l'évêque, ce qui montre justement que, à l'origine, c'est bien la Pentecôte qui est venue, enfin l'Esprit-Saint venu sur les 12 apôtres. Et donc on essaye de montrer cela. Et puis encore, comme pour le baptême, un parrain ou une marraine, pour signifier que on accompagne de façon à ce qu'il y ait une prolongation et une vérité dans ce sacrement pour être témoin du Christ. Alors, l'onction, donc c'est bien donné avec l'onction sur le front, mais il y a une prière d'introduction qui est très belle parce que par imposition des mains, c'est l'appel de l'Esprit-Saint, en faisant mémoire justement de cet Esprit-Saint qui depuis toujours, d'ailleurs même dans l'Ancien Testament, hein, les prophètes, les rois, il y avait cette onction, et puis les prêtres aussi qui reçoivent le Saint-Crème, et aussi une onction, mais par l'imposition des mains et une prière comme une épiclèse, pour prendre un terme qui
alors est faire descendre l'Esprit-Saint,
voilà, on demande épiclèse. Que sur cette assemblée, sur ces enfants, sur ces jeunes adultes, il y ait une grâce qui puisse les pénétrer de façon que leurs paroles et le feu de l'amour de Dieu, parce que l'Esprit-Saint, c'est l'amour de Dieu, puisse davantage les aider à être témoins dans le monde. Donc c'est un sacrement de la force et du témoignage. Nous avons besoin de ce sacrement, non seulement, autrement dit, d'être enfant de Dieu par le baptême, mais aussi d'être témoin, comme on disait aussi autrefois, mais c'est encore une valeur, être soldat du Christ. On est dans un monde où on doit combattre, d'abord sur soi-même, les passions humaines, et puis face à des ennemis spirituels, contre les forces du mal, il faut que le chrétien, intérieurement, ait cette présence de l'Esprit du Christ. Et c'est aussi une lumière pour comprendre davantage la parole de Dieu, et c'est une présence intérieure. Vient l'Esprit Saint en nos cœurs. Ouais, donc c'est dans le Veni Creator, on dit bien Veni Sancte Spiritus ou Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, visite l'Esprit, le cœur de tes fidèles.
Ouais. Il est assez remarquable, comme vous l'avez remarqué, que nous avons dans la cathédrale de Chartres beaucoup d'images de baptême, avec immersion complète des corps en général, mais très peu de représentation de l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. On ne parle pas de flammes, on ne montre pas des flammes. En général, quand l'Esprit descend sur Marie, par exemple, ce sont des rayons de lumière rouges, certes, mais pas sous forme de flammes. C'est assez récent, me semble-t-il, de montrer le feu de l'Esprit Saint, parce qu'au Moyen-Âge, le feu, c'est surtout les flammes de l'enfer. Donc on a une petite... une transformation dans l'iconographie, dans la représentation.
Oui, parce que c'est peut-être difficile de représenter le feu, mais... Dans l'origine... de la Pentecôte historique, donc dans les Actes, c'était bien des flammes de feu.
Flammes ou langues de feu. Et au Moyen-Âge, on jetait des pétales de rose. Ça se fait, je crois, encore à Rome.
Ah
oui, on jette à la Pentecôte des pétales de rose. Sept sacs de pétales de rose sont descendus de là-haut de la voûte. Oui,
c'est pas.
Pour
c'est beau.
Solliciter tous les sens.
Oui, pour montrer que la grâce de Dieu descend. Il y a la notion du don, quoi. C'est ça qui est beau dans l'Esprit Saint, c'est donner. Si tu savais le don de Dieu, on peut pas mettre la main sur l'Esprit Saint, on peut pas se l'accaparer, on peut se mettre dans les dispositions, donc c'est normal qu'il y ait une préparation, surtout de foi. Comme Jésus a fait avec ses apôtres, il les a préparés, je vous enverrai une force venue d'en haut. Donc, bien qu'ils aient vu le Christ ressuscité, il y a nécessité d'une intériorisation pour découvrir le Christ de l'intérieur et pour être fortifié dans la foi. Alors oui, c'est un beau sacrement, et le mot lui-même le signifie, ça confirme notre foi et ça nous donne un élan, car je crois qu'on a tous besoin de l'élan missionnaire, puisque nous sommes dans le mois missionnaire. Je crois qu'on manque de souffle, hein, souvent, et donc c'est sans doute que l'Esprit-Saint n'est pas pleinement présent pour nous envoyer dans la joie, annoncer la victoire de l'amour de Dieu.
Mais dans l'ancien catéchisme, que j'ai sous les yeux, il est question des dispositions qu'on doit avoir quand on reçoit un sacrement. Il faut peut-être revenir au sacrement de la pénitence, à la réconciliation avant.
Oui, pour les adultes et même un enfant, on présente toujours le sacrement de réconciliation pour se mettre dans une disposition de pureté du cœur, parce que plus on est dans l'esprit de foi, d'attente, c'est le mystère du Cénacle. C'est quand même étonnant que de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, il y a eu cette grande neuvaine finalement, hein, près de 10 jours, pour accurer l'Esprit Saint. Et dans la prière, avec Marie, ils attendaient. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait un désir, il fallait un accueil. Et c'est vrai, et c'est pour cela que il y a toujours une retraite, un temps de recueillement avant de recevoir ce sacrement.
Puisque vous vous référez au Veni Creator, il y a aussi le Dulcis Hospice, l'accueil doux du Saint-Esprit, comme dans le Bon Samaritain, nous voyons l'hôtelier qui est l'Esprit-Saint, une figure personnifiée de l'Esprit-Saint qui accueille le blessé.
Voilà, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, c'est magnifique. Hein. Mais j'aime bien la strophe où qui diceris paraclitus, toi qui appelais le paraclet, c'est-à-dire celui qui va être notre avocat, qui va nous aider à témoigner. Altissimi donum Dei, le don du Très-Haut. Fons, alors ça signifie bien tout l'aspect de l'eau vive qui a été annoncée à la Samaritaine. Voilà. Donc je crois que... Et les 7 dons, hein, tous ces petits formis, munere, digitus, paterne, dextere, toi qui es le doigt, vous voyez, c'est encore une indication, le doigt du Père, bon, bien... Il y a comme le bras qui serait justement la puissance de Dieu, la main qui serait le Verbe, et puis le doigt, c'est-à-dire qui achève en fait, hein, qui achève avec délicatesse tout ce que le Seigneur a fait.
Ce que les artistes ont bien exprimé dans leur grand chef-d'œuvre. Michel-Ange avec le doigt de Dieu.
Ah oui, tout à fait, à la création. C'est beau parce que déjà à la création, on n'y pense pas, mais bien sûr que l'Esprit-Saint est donné à la Pentecôte, mais on peut dire que dans les premières pages de la Bible, même le premier verset, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà, dès le premier verset de la Bible, une annonce, hein, l'Esprit qui plane sur les eaux, qui va planer bien sûr sur Marie, puisque l'eau aussi est le symbole de Notre-Dame, et dans une recréation au moment de la conception du Christ, hein, l'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Donc on voit que l'Esprit-Saint est vraiment au début de la vie du Christ, et à la fin de sa vie, il remit l'Esprit. C'est très beau que le dernier acte de la vie du Christ, il remit l'Esprit. Déjà, c'est une petite Pentecôte qui est donnée à Saint Jean et à Marie, à la croix, son dernier acte. Et ensuite, cette Pentecôte qui est intime, qui est plus contemplative, sera donc reprise le jour de la Pentecôte. Il souffla sur eux, il leur dit « remettez les péchés ». C'est une Pentecôte, j'allais dire, plus institutionnelle pour le sacrement de réconciliation pour les 12 apôtres. Et puis, la Pentecôte charismatique, donc 40 jours après Pâques, le jour de la Pentecôte sur les 12 apôtres, et pour annoncer la bonne nouvelle avec force et avoir ces langues, c'est-à-dire cette parole de feu qui va toucher les cœurs.
L'orgue est l'instrument par excellence pour la liturgie. Nous parlons avec l'abbé Potier des différents sacrements. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la confirmation. Et vous avez beaucoup parlé, et magnifiquement parlé, du rôle de l'Esprit-Saint. On dit que Jésus, il a institué les sacrements. Est-ce qu'il a parlé aussi de l'Esprit-Saint? Et de quelle forme a-t-il parlé de l'Esprit-Saint?
De fait, c'est une bonne question, parce qu'on peut dire que Jésus, il est le prophète de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire il annonce. Je suis frappé que dans Saint Jean, chapitre 14, 15 et 16, il y a au moins 4 ou 5 fois où Jésus dit « Vous recevrez l'Esprit-Saint, il sera avec vous à jamais ». Donc il donne première notion d'une intériorité pour être avec vous à jamais. « Celui que le monde ne peut recevoir, mais lui, il vous conduira vers la vérité tout entière ». Et je pense que là, cette phrase, elle est très belle, parce que il semble que Jésus semble laisser à son Église, eh bien, le rôle d'interpréter toutes ces paroles. Moi, je vous ai dit ces choses, etc. Mais l'Esprit Saint, lui, il vous conduira à futur. C'est peut-être là une notion de la tradition qui va naître. L'Esprit Saint conduira l'Église jusqu'à découvrir toute la vérité tout entière. Et là, je pense subitement à, justement, dimanche prochain, le 13 octobre, il va y avoir la canonisation de Newman. Et Newman, justement, c'est cette découverte que l'Esprit Saint est dans l'Église et a permis une maturation du dogme. Et donc, l'Esprit Saint a conduit l'Église à la vérité tout entière, et il a justifié, justement, les dogmes, lui qui était anglican, qui s'est converti, justement, grâce à cette perception que l'Esprit Saint est donné à l'Église pour interpréter l'Écriture et l'amener à maturité. Et je crois que ça, c'est bien. Alors, encore, Jésus, dans un autre passage, dans Saint Jean, au chapitre 16, il dit que il prendra de mon bien, l'Esprit Saint prendra de mon bien pour vous en faire part. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va aider par les sacrements à comprendre tout ce que Jésus a fait, et vous serez les témoins. Il vous aidera à témoigner. Et je crois que ça, c'est vraiment un rôle, et Jésus dit cela dans le contexte des persécutions. Ils m'ont persécuté, le monde ne peut pas recevoir ma parole, vous aussi, mais vous aurez l'Esprit Saint, et il vous aidera à témoigner. Donc ces annonces de l'Esprit Saint par Jésus lui-même sont importantes, parce qu'on sent que avant son départ, il prépare son Église au fait que, bien sûr, il va être ressuscité, et c'est lui-même qui sera toujours vivant, mais pour intérioriser cette vie du Christ et le savoir vivant, et j'allais dire nous connecter au fait qu'il soit ressuscité et avoir les effets de sa résurrection sur nous, il nous faudra l'Esprit-Saint qui est une personne divine. C'est pour ça que dans le signe de la croix, comme dans les sacrements, on nomme le Père, le Fils, Saint-Esprit à égalité.
Alors, il me semble que l'on a à ce moment-là, si effectivement on peut représenter l'Esprit-Saint sous une forme divine, personne divine, et nous avons dans le vitrail de Sainte Catherine, quand elle discute avec les philosophes, il y a à côté d'elle un ange qui peut effectivement signifier qu'elle parle sous l'influence de l'Esprit-Saint. Et pareil, il me semble, dans le vitrail de Saint-Étienne. On ne montre pas la colombe, mais on montre un ange à côté.
Très bien. Bien que vous connaissiez la cathédrale, et c'est vrai, il y a quand même une présence de l'Esprit-Saint de différentes façons, surtout par la vie, justement, des saints et des saintes qui sont proposés. Hein. Et là, je pense aussi aujourd'hui, puisque nous sommes le 11 octobre, c'est la fête de Jean 23. Eh bien, Saint Jean 23 avait une grande dévotion à l'Esprit-Saint. Et
nous enregistrons autour de cette date-là, mais ça sera diffusé à une autre.
Oui, mais c'est bon de noter l'importance du 11 octobre, qui est l'ouverture du Concile Vatican II en 1962, par Jean 23, qui a dit qu'il avait reçu une inspiration de l'Esprit-Saint pour cela. Donc l'Esprit-Saint est dans l'Église, l'Esprit-Saint est donc non seulement dans la hiérarchie de l'Église, le pape, les évêques, mais tout baptisé et tout chrétien doit faire appel à cette personne divine qui est en nous, très discrète, j'allais dire, parce que c'est souvent sous forme d'inspiration qu'il parle, en fait, c'est des inspirations. Et puis les dons, les 7 dons du Saint-Esprit, notamment les premiers dons de crainte de Dieu, dons de piété filiale. Et puis le troisième, j'aime bien, parce que c'est la force pour témoigner. Et puis quand on est sur la route et qu'on a la force de marcher, il faut le conseil. Donc l'esprit de conseil est important, c'est l'esprit qui nous fait choisir la meilleure direction pour les vocations, pour les grands choix. Et l'esprit de sagesse et d'intelligence, bon, la sagesse étant l'esprit qui nous donne le goût des choses de Dieu. Et Dieu sait si c'est important de pénétrer la parole de Dieu avec un certain goût. Et je crois que c'est l'Esprit Saint qui nous donne vraiment un goût intérieur des réalités divines, des paroles, de la compréhension des sacrements et même de la prière. Parce qu'on peut dire le Notre Père comme ça par cœur, mais seul l'Esprit nous aide finalement à prier. Car c'est l'Esprit Saint, l'Esprit du Fils, et saint Paul en parle aux Romains, l'Esprit de Jésus qui nous aide à dire Père.
Nous avons parlé du baptême et de la confirmation, qui sont les sacrements donnés aux vivants. Mmh. On peut peut-être lier, sans épuiser le sujet, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, le thème de l'huile qui est présent aussi avec le sacrement ou de l'onction des malades, qui était autrefois appelée l'extrême onction.
Très juste. Alors, de fait, l'onction signifie justement cette imprégnation de la compassion et de la grâce divine qui va fortifier le malade, qui pour rattacher ses souffrances à celles du Christ, qui dans la passion a traversé toutes les souffrances avec amour. Et donc cette onction qui a aussi quelquefois un effet de guérison spirituelle, morale et même physique est très belle, parce qu'autrefois elle se faisait aux mains, aux pieds, puis je pense à la poitrine pour montrer les stigmates de Jésus, maintenant simplement le front et puis les deux mains, mais c'est la même idée, imprégner la grâce de Dieu dans nos faiblesses, de façon à permettre à nos faiblesses de trouver un sens profond. Oui, l'huile, à ce moment-là, par le geste lui-même, signifie bien une compassion, une douceur de la grâce de Dieu.
Rappelons que ce n'est pas n'importe quelle huile, ce n'est pas l'huile de colza, c'est bien l'huile d'olive.
Oui, oui, oui. Alors surtout pour le Saint-Crème. Pour le Saint-Crème et une huile parfumée.
Alors, avec du baume.
Oui, c'est ça. Donc ça pour le Saint-Crème, pour le baptême au Saint-Crème, pour la confirmation et pour le sacrement de l'ordre. Pour l'extrême onction, l'Église a ouvert une possibilité plus large, du moment que c'est vraiment une huile végétale, parce que quelquefois on est dans l'urgence, on n'a pas toujours l'huile, donc on peut bénir l'huile. Alors le mieux, c'est d'avoir l'huile qui a été consacrée, bien sûr, le mardi saint, ou mercredi ou jeudi saint, selon les églises particulières. Mais le rituel dit qu'on peut aussi prendre une huile normale et bénir, justement pour le bienfait du malade, de façon à ce qu'il ne soit pas soustrait à la grâce, surtout de l'extrême onction.
Mais encourageons quand même les prêtres qui risquent d'être sollicités auprès du chevet d'un malade d'avoir toujours une petite trousse avec l'huile,
normalement,
le Saint-Crème préparé par le... Ça serait tout à fait souhaitable, je pense. Autrefois, c'était un sacrement qui se donnait une fois, mais maintenant on peut le répéter plusieurs fois.
Alors, donc le sacrement de malade n'est pas fait avec l'huile du Saint-Crème. Hein. C'est une huile, ça fait partie des trois huiles qui sont...
Mais l'huile d'olive quand même ou...
Pour l'huile des malades, pas d'une façon stricte, mais végétale le plus possible, parce qu'on veut aider le malade. Mais pour le Saint-Crème, là, c'est plus strict. Et c'est vrai qu'il est bon de le donner, toujours en extrême onction, mais c'est maintenant plus facile de le donner pour les malades lorsqu'il y a quelque chose de sérieux, oui.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé Potier, pour toutes ces explications. Cela nous permet de mieux connaître l'importance des sacrements et puis peut-être aussi, en regardant les vitraux de la cathédrale, de mieux comprendre les différentes représentations. Merci beaucoup aussi à Simon, à la technique. Chers auditeurs, au revoir à la prochaine fois.
Merci beaucoup, au revoir.